faut qu'ils nous suivent depuis chez eux, à famille, une seule. Soyez tous et toutes bénis. La passion pour Jésus-Christ, être passionné pour le Seigneur Jésus-Christ. Généralement, quand on parle d'être passionné pour quelque chose, souvent on parle plutôt de passionné pour une activité. Et vous avez sans doute déjà rencontré des personnes qui sont passionnées par quelque chose, quelque chose dans cette partie. Et par exemple, l'oncle du Seigneur, le Yadim, qui est passionné par l'agriculture. Donc il a commencé par installer une rue, une deuxième. Maintenant, il y a une trentaine. Il a mis beaucoup de temps à s'occuper des rues, des abeilles, à récolter les miel. Et quand on discute avec lui, on sent qu'il y a vraiment une sorte de flamme. Il y a un intérêt pour cet univers des abeilles qui tourne autour. Et quand on rencontre des personnes passionnées, ça, pour moi, je rencontre des personnes passionnées comme cet oncle de Sylviane, j'ai toujours envie de savoir d'où ça vient. Qu'est-ce qui a fait que je m'intéresse plus à la culture au dessin, à la mécanique, à préparer des voitures plutôt que à faire de la pâtisserie, à la photographie plutôt qu'à les bénéficier. Essayez un peu de suivre un peu à savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui motive cette passion. Maintenant, on va parler de la passion pour une personne, pour Jésus, du temps qu'on consacre, de l'amour qu'on a pour lui. Et j'ai envie de vous poser la question, vive cette passion, vive cette motivation. Qu'est-ce qui motive notre amour? Et je vous propose de chercher à répondre à cette question en regardant dans la Bible un épisode qui a été un peu difficile dans le ministère de Jésus, un moment où il y a eu une épreuve pour Jésus et aussi pour tous ceux qui l'accompagnaient. Un épisode qui a permis justement de tester et de voir quelle est la motivation profonde des disciples. Et qui a permis de répondre, cet épisode a permis de répondre à la question de pourquoi est-ce qu'on est disciple de Jésus, pourquoi est-ce qu'on veut le suivre, est-ce qu'on est passionné par Jésus. Et le texte qu'on va lire nous apporte une grande réponse. Les disciples qui restent avec Jésus le suivent avec amour, avec passion, d'abord et avant tout à cause de l'identité de Jésus, de sa personne. Ce texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, et on va lire ensemble du verset 60 au verset 71, dans la traduction du Semeur, dans les textes de la Pâtissée. Je pense que ceux qui sont chez eux peuvent aussi le voir affiché sur leur ordinateur. Nous sommes à Capernaum, au bord du lac de Galilée, dans la synagogue. Jésus vient de parler assez longuement. Il a parlé de pain de vie, de pain qui doit être mangé, de chair qui doit être mangée, de sang qui doit être vu. Et voici Jésus vient juste d'arrêter de parler, voici ce qui se passe. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent: ce langage est bien difficile à accepter, qui peut continuer à l'écouter? Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit: cela vous choque-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et là, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Aussi ajouta-t-il: c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les douze, leur demanda: et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? Mais Simon Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi, et nous savons que tu es le Saint, envoyé de Dieu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12, reprit Jésus? Et pourtant l'un de vous est un diable. Par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon Iscariote, l'un des 12, qui allait le trahir. Alors, je vais demander à Timothée s'il était un ancien, hein, Timothée, qui était d'accord d'illustrer cet épisode. Et il avait regardé il y a deux semaines quand Daniel avait prêché, il avait repéré que Daniel utilisait des illustrations de Jésus. Donc, du coup, la même à la fin, j'ai utilisé ce que j'ai aussi, j'ai utilisé Minecraft. En fait, c'est un peu bête, c'est un peu dans une vidéo. Donc voilà. Il y a fait Timothée, il a été engagé par sa grande femme, en fait. Donc, c'est assez physique, comme c'est tout, on va dire. Jésus à la synagogue de Capernaum. Avec des disciples, les jours, mais beaucoup d'autres disciples. Parfois, on dit que les disciples de Jésus étaient beaucoup plus nombreux que les disciples de Jésus, c'était le sens pour rapprocher. Jésus, on est au lendemain d'un grand miracle qui a été accompli. Jésus a donné à manger à une foule très nombreuse à partir de 5 pains et de 2 poissons. Un miracle extraordinaire. Et le lendemain, la foule recherche Jésus. Et elle le trouve à Capernaum, dans la synagogue. Et là, une discussion commence. Une discussion commence où Jésus cherche à expliquer le sens du miracle, de cette multiplication des pains et des poissons. Jésus dit que c'est lui, le pain de vie, qui peut apporter la vie éternelle, mais ses paroles provoquent beaucoup d'incompréhension, beaucoup de murmures parmi les juifs, et ces murmures, cette incompréhension, elle se répand parmi les disciples. C'est un moment critique. Un moment critique, une fois que Jésus a fini par aller. Un moment où un choix est fait. Un moment où la motivation, la passion pour se mettre chez Jésus-Christ est testée. C'est mal au cœur de voir que les disciples, les gens qui accompagnaient Jésus, ont décidé d'abandonner. On est seulement au chapitre 6 de l'évangile de Jean, et quand on regarde la chronologie, ça fait déjà 2 ans que Jésus a son ministère. C'est pas juste des disciples qui étaient là peut-être que depuis quelques jours, c'est visiblement des disciples qui l'ont accompagné pendant un certain temps. Et pour plusieurs, de beaucoup de ces disciples, parce qu'on nous dit le texte, beaucoup sont partis, beaucoup ont abandonné Jésus, parce que ses paroles étaient pas importantes. C'est trop difficile à accepter. Jésus se tourne vers le cercle, son cercle rapproché, et leur demande clairement qu'ils veulent suivre ce mouvement de l'antipas. Matthieu 76. Et vous ne voulez pas aussi partir. Comme toujours, Jésus ne s'impose pas. Jésus ne s'impose jamais à nous. Mais il nous demande de prendre position, il demande à l'autorité de prendre position. Et on va s'arrêter un peu plus, particulièrement sur la réponse de l'apôtre Pierre. Pierre, c'était le porte-parole de ses camarades, il parle avec son cœur, comme souvent, avec spontanéité, sincérité. On va relire les versets 68 et 69. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi. Nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. Quelle magnifique affirmation, quelle magnifique profession de foi. Nous ne devons pas imiter Jésus. Nous ne devons pas suivre le mouvement. Et oui, plus que jamais, ils affirment vouloir poursuivre le chemin d'être disciples à la suite du Maître. Ils tiennent bon dans cette épreuve. Et quelles sont les raisons que Pierre met en avant dans cette belle affirmation? Chacune des phrases de ces deux versets nous donne une raison. La première, vers qui irions-nous? Dieu commence, on n'a pas trouvé le toi. Pour regarder le tour, personne n'est comme toi. Deuxième raison, tu as les paroles de la vie éternelle. Dieu commence. On sait qu'avec toi, nos besoins vont être comblés. Tout nous donne la vie. Troisième raison, tu es le Saint envoyé de Dieu. Dieu commence. Tu es bien plus qu'un homme. Dans ce qu'on a demandé, il a été mis à part pour Dieu. Envoyé vers les hommes pour leur donner la vie. Tu es le Messie. Trois raisons. Trois motivations pour être passionné pour Jésus. Et elles sont toutes extraordinaires, elles sont toutes importantes et valables, mais ça, elles n'ont pas toutes la même importance. Elles n'ont pas toutes la même félicité. La première motivation, c'est un peu ce qu'on appellerait un choix par défaut. On n'a pas trouvé mieux. Lorsqu'on est arrivé, on n'a pas trouvé mieux. La choix. Le problème, c'est que cette motivation, quand elle est toute seule, parce que c'est la seule motivation, elle présente une faiblesse, une fragilité. Pourquoi? Parce qu'elle est d'abord toujours parce qu'un jour, peut-être, plus tard, par la suite de l'autre, dans ce cas-là, la motivation, la façon n'est pas. Les choix qu'on fait par défaut sont souvent des choix très incertains. La deuxième motivation, elle repose sur ce que Jésus apporte aux disciples. Il apporte la vie éternelle. C'est une motivation importante pour rester auprès de lui. Il y a tant à gagner à rester auprès du Seigneur. Mais cette motivation aussi, si c'est la seule, elle présente une faiblesse, une fragilité. Pourquoi? Parce qu'elle laisse la porte ouverte, parce que peut-être un jour, que Jésus va vouloir me donner, là ça correspond pas à mes attentes. Parce que parfois mes attentes, elles sont en décalage par rapport à ce que Jésus a prévu pour moi. Et là, ça peut être une crise importante dans ma vie. La motivation, la façon de disparaître. Et les textes qu'on a donnés nous ont donné le bon moment. Pourquoi est-ce que les disciples sont partis? Parce que ce que Jésus venait de dire, ça ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Ils attendaient sûrement un Messie qui allait instituer un royaume. C'est vrai. Pas un maître qui leur parle de chair, de sang, de mort, de vie éternelle. Mais un décalage entre ce qu'ils attendaient et ce que Jésus était venu dans le monde. La troisième motivation, elle repose sur l'identité de Jésus. Il est le Saint, envoyé de Dieu. Il est le Messie. Et cette motivation-là, même si c'est la seule, elle ne présente aucune faiblesse, aucune fragilité. Pourquoi? Parce que contrairement aux deux premières, où c'est un petit peu nous qui sommes le centre. Alors, c'est nous qui comparons les deux autres, c'est nous qui estimons si nos attentes sont comblées ou pas. Cette dernière motivation, elle est centrée sur Jésus, sur l'identité de Jésus. Et cette identité, elle ne change pas. Elle ne change pas jamais. C'est une certitude absolue. Et c'est cette dernière motivation, oui, c'est le Messie. Il donne du sens aux deux autres. Si Jésus est le Messie, si Jésus est le Fils de Dieu, alors, bien sûr que tous nos besoins vont être comblés. Alors, il peut nous donner la vie éternelle. Si Jésus est le Messie, alors oui, inutile de regarder ailleurs, de chercher un autre maître. Il n'y a personne comme Jésus. Il dit la chanson, on peut prier, chercher, tourner, il n'y a personne comme Jésus. Les trois motivations dont Pierre nous parle sont vraies, importantes, valables, mais c'est la dernière qui est assez, qui est le fondement. C'est d'identité et la personne de Jésus permet de d'avoir confiance que les autres t'apportent tout ce dont nous avons réellement besoin. L'amour, le pardon, la joie, la satisfaction intérieure, la libération, le salut, la vérité, la vie éternelle. Tout cela, nous savons que nous l'aurons parce que Jésus est le Fils du Christ. Et c'est aussi l'identité, la personne de Jésus qui nous permet d'avoir confiance que aucune autre croyance, aucune autre personne, aucune autre spiritualité, aucune autre religion ne pourra jamais, jamais nous apporter ce que Christ nous apporte. Un pasteur londonien disait souvent que la Bible ne nous donne pas un argument irréfutable pour être des disciples. Elle nous donne une personne irréfutable. Parce que contre Jésus, aucun argument ne peut être proposé. Je pense qu'il y a une image qui peut servir à illustrer ce que je vous propose, concernant les deux premières motivations, le choix par défaut et de dire ben, je suis Jésus, parce qu'il n'y a rien d'autre, je suis Jésus parce que il faut que les deux ans, une fois après deux ans, sans qu'il y ait une motivation fondée sur l'identité de Jésus. Et cette image, c'est l'institution dans la Bible nous dit qu'elle a été créée par Dieu dans le but de refléter la relation entre Dieu et les hommes, entre Jésus et son Église. Cette institution, c'est la relation exclusive entre l'homme et une femme dans le cadre du mariage. Et si l'apôtre Paul nous en parle dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, alors on est bien d'accord qu'aujourd'hui, le mariage est attaché par le péché. Et que malheureusement, dans un mariage, il peut exister des relations sexistes, il peut exister de la violence. Et dans un mariage, aucun des deux conjoints n'est parfait comme Dieu, Jésus est parfait dans la relation entre Jésus et nous, on est d'accord. Mais malgré cela, dans l'intention de Dieu, le mariage, c'est l'illustration parfaite, l'image parfaite, de la relation que Jésus doit avoir avec son Église et avec ses disciples. Et du coup, on peut poser la question pour ceux qui sont mariés ou pour ceux qui envisagent de l'être. Quelle est la motivation à être passionné par son épouse ou par son épouse? Pour son épouse. Si on reprend les deux premières motivations, la réponse de Pierre pourrait dire il y a un choix par défaut. Du coup, Thierry, ça veut dire un petit peu, mais que personne ne le soit. Donc, il est invité. Il y a personne de vous mettre à la main. Pourquoi pas? Mais je pense qu'on sent bien que si c'est la seule raison, c'est la seule raison, c'est très très fragile face à la tentation de la déchère. Une raison plus solide, une très bonne raison, c'est de dire. Qui nous rend heureux, qui nous rend heureux, qui répond à l'église, qui nous apporte beaucoup de choses positives. Et c'est là, je pense, une très belle raison. Et c'est partagé par beaucoup de couples. Mais si c'est ça la motivation plus ultime, c'est que mon conjoint compte mes enfants, mes besoins, alors j'ai un danger parce que c'est facile quand le conjoint ne répond plus à mes attentes. Parce que ces attentes peuvent parfois aussi être démesurée, elle peut être évolue, elle peut être inconséquente, elle peut être évolue. Mais il faut alors une autre sorte de motivation qui est centrée sur la personne de notre conjoint. Parce que la relation ne soit pas durablement abîmée. Pour l'apôtre Pierre, pour les 12 disciples, c'est bien la personne de Jésus qui est la référence de leur vie. Et non plus seulement leur personne, leurs besoins. Si on refait en passage de l'évangile de Jean, je ne suis pas certain que Pierre a mieux compris les paroles de Jésus sur la chair, le sang, etc. Je pense même qu'ils ont sans doute dû être assez motivés par ces images. Mais ils avaient compris qui était Jésus. Ils avaient compris que cet homme, et c'est les Messie. Ils ont mis toute leur foi en lui, même s'ils ne comprenaient pas forcément tout ce que Jésus leur disait. Et cette motivation-là, le fait d'être passionné pour Jésus, parce qu'il est ici, parce qu'il est le Dieu, c'est la seule qui permet de réellement traverser les épreuves de la vie. Pierre va connaître beaucoup d'épreuves. Il va renier Jésus. Il puis être pardonné. Il va connaître la prison, comme nous le raconte le livre des Actes. Et puis on sait par la tradition qu'il va être mort en martyr, ensemble, sans renier sa foi. Oui, les versets de l'évangile de Jean, les paroles de Pierre nous interpellent aussi. Et nous posons la question, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui est la source de notre passion pour la politique et pour suivre Jésus-Christ? Chacun d'entre nous, individuellement, mais aussi tout ensemble, collectivement, comme l'Église de Jésus-Christ avant d'œuvre. Est-ce que cette motivation, elle dépend de moi? En fin de compte, de mes attentes, de ce que j'ai retiré de ma relation avec Jésus, en faisant une logique de calcul, ou bien si elle est centrée sur la personne de Jésus, sur son caractère, sur ses paroles, ses actions, sa présence en moi. Est-ce que pour moi Jésus est le Saint de Dieu qui a les paroles de Jésus? Est-ce que je l'ai rencontré d'une manière que j'ai placé toute ma confiance en lui, même si je ne comprends pas forcément ses paroles, même si je ne comprends pas forcément ses actions? Pierre nous appelle, par sa réponse, à tourner nos regards vers Jésus. Fixer notre attention sur lui. Méditer ce que la Bible nous dit de Jésus-Christ. Contempler l'œuvre qu'il a accomplie. Ça a été dit, on est le premier dimanche de l'avant, et je pense que la période qui s'ouvre, c'est une période qui est favorable, qui est propice pour tourner nos regards, notre attention, notre cœur sur Jésus. Et concrètement, ce que je vous propose de faire deux choses dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. La première, c'est de vous faire un calendrier de l'année. Alors, pas avec des chocolats, ni avec des émojis. Donc, normalement, c'est des calendriers de l'année, avec plein de choses, avec des bières, hein, c'est juste des bouteilles de vin. Donc, vous pouvez faire ça, mais je vous propose quelque chose en plus. Un calendrier d'avant avec des textes bibliques qui nous parlent de Jésus. Et les textes bibliques qui nous parlent de Jésus, qui sont les évangiles. Et il y a plein d'évangiles qui a 24 chapitres. Comme on s'en disait d'avant. C'est l'évangile de Luc. Alors, je vous propose de prendre chaque jour un chapitre de l'évangile de Luc. Allez, dimanche 1er décembre. Au jeudi 24 décembre, 22 Noël. Et la deuxième chose que je vous propose de faire pour augmenter nos cœurs et nous penser vers Jésus-Christ, c'est que dans ce chapitre qui aura été lu dans l'évangile de Luc, prendre un épisode, une parole de Jésus, un événement, nous permet de mieux le connaître, de mieux apprécier son caractère, ses actions, sa façon d'interagir avec les autres, sa façon d'interagir avec son père. De méditer cela quelques instants et puis de le transformer dans une prière. Une prière pour remercier Dieu. Et pour lui demander de faire grandir notre amour, de faire grandir notre passion pour lui. De faire grandir notre zèle pour franchir la mer. Deux actions concrètes. Donc, peut-être prendre 15 minutes chaque jour, mais qui vont avoir un impact sur nos vies, sur vos vies. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre et parce que la parole de Dieu est vivante. Et c'est justement en parlant du Saint-Esprit que j'aimerais compter la prédication. C'est pas ça que nous avons eu en beaucoup d'autres choses à retirer. Il y a un élément qui est important et qui vient compléter cet aspect de la motivation à être passionné pour Jésus. Et c'est un élément que Jésus redit clairement à plusieurs reprises dans le texte qu'on a lu. C'est qu'au final, être passionné pour Jésus, ça ne dépend pas que de moi. C'est aussi une grâce et un cadeau de Dieu. Je fin verset qui nous le disent, à chaque fois de manière un peu différente. Verset 63, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Verset 65, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. Verset 70, mais pas moi, si vous êtes tous choisis, tous les 12. Nos efforts pour comprendre ce que Jésus, pour réaliser, pour être passionné, ils ne sont pas efficaces en eux-mêmes. C'est Dieu qui permet de comprendre sa parole grâce à l'Esprit Saint qui nous dit dans verset 63. C'est Dieu qui nous permet d'accéder à lui par Jésus, et dit le verset 65. C'est Jésus qui choisit ses disciples. Il vous a choisi, il nous a choisi, et pas l'inverse. Il dit le verset 70. Alors, nous nous sommes appelés à avoir foi, à faire confiance, à prendre position. C'est pas parce que Jésus a choisi les disciples qu'il ne leur pose pas la question, et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous partez avec les autres, vous restez. Donc, Dieu prend l'initiative, il attend de nous aussi une réponse. Mais rappelons-nous que si on est disciple, notre amour et notre confiance pour Jésus-Christ grandit, c'est avant tout chose une grâce, un cadeau de sa part qui nous fait. Je vous invite à partir. Père, je te loue pour Jésus-Christ, qui est mon sauveur et mon roi. Merci parce que la foi ne se réduit pas à la possession d'une culture religieuse, à la confession de certains rites et de certaines pratiques. Jésus est lui-même le point de mire de tout ce que je fais ou dis et de tout ce que je crois. Il est la porte vers la vraie vie, à présent et pour l'éternité. En Jésus-Christ, je vois que tu es vrai, qui tu es vraiment, Père. T'aider de mettre ton projet pour ce monde. En Jésus-Christ, je vois ta grandeur concentrée en une vie d'homme. En Jésus-Christ, je suis confronté à ton appel à l'obéissance et à la dépendance. En Jésus-Christ, je trouve l'énergie et le goût de vivre. À sa croix, je vois ta justice et ton amour. Je te loue, Père. Je veux que ma vie soit toujours plus centrée sur Jésus. Que tes désirs deviennent les miens. Que tes priorités façonnent ma pensée. Que je porte le même regard que lui vers les autres. Transforme-moi, Père. Amen. Et pour prolonger cette méditation sur le fait d'être passionné pour Jésus, la chance qu'on va pouvoir prendre Jésus, je te suivrai.